La princesse de Clèves, adaptée au cinéma par Jean Delannoy.
Je veux vous apprendre une aventure que vous serez, j'en suis sûre, bien aise de connaître. Vous savez l'envie que nous avions de deviner qui causait le changement du duc de Nemours. Je crois le savoir, et c'est une chose qui vous surprendra. Il était perdument amoureux et fort aimé d'une des plus belles personnes de la cour.
Ça peut pas faire de mal.
Je ne vois rien dans cela qui doive surprendre d'un homme tel que Monsieur de Nemours.
Ce qui est étonnant, c'est de savoir que cette femme qui aime Monsieur de Nemours ne lui en a jamais donné aucune marque. Et que la peur de n'être pas toujours maîtresse de sa passion la lui a fait avouer à son mari. Et c'est Monsieur de Nemours lui-même qui a conté ce que je vous dis au vidame de chat.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
N'est-ce pas une histoire à dormir debout ?
Ça peut pas faire de mal.
Il parut une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. Elle lui faisait aussi des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France, et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'avait jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierres riches chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris par sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise. Et Mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné. Monsieur de Clèves la regardait avec admiration et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air et par tout ce qui était à sa suite qu'elle devait être d'une grande qualité. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir l'effet de leur beauté. Il lui parut même qu'il était la cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller, et en effet, elle sortit assez promptement. Le prince de Clèves demeura si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires. S'il est un livre qui a fait date dans l'histoire de la littérature française, c'est sans doute « La princesse de Clèves », écrit par Madame de Lafayette et paru en toute discrétion, sans nom d'auteur, en 1678. Cette publication est très importante car elle marque la naissance du roman moderne, c'est-à-dire d'un genre qui aspire à plus de brièveté, de simplicité et surtout qui s'inscrit davantage dans le réel. Écrire un tel ouvrage, c'était le souhait le plus cher de Madame de Lafayette, ancienne dame d'honneur à la cour, grande amie de la marquise de Sévigné, mais aussi de La Rochefoucauld. Avec la princesse de Clèves, elle a voulu décrypter les émotions de ses personnages et nous faire entrevoir leur intimité à travers le récit d'une histoire d'amour qui traverse encore les siècles. L'action se déroule à la cour de France sous le règne d'Henri II. Une jeune fille, Mademoiselle de Chartres donc, épouse sans en être amoureuse le prince de Clèves qui, lui, l'aime passionnément. Mais ce mariage de raison n'empêchera pas la nouvelle princesse de nourrir un attachement très particulier envers un autre homme, le duc de Nemours. Ce soir, je vous propose donc de découvrir ce roman d'adolescence dans lequel la passion se développe dans le silence, dans les gestes volés, les regards. Un roman sur les jeux et les horreurs de l'amour qui continue de nous éclairer plus de 300 ans après sa publication.
Vous êtes seule, madame, et vous avez un gage. Je vous donne à choisir le premier venu. Invitez-le à danser.
La jeune mademoiselle de Chartres a donc répondu aux avances de monsieur de Clèves et accepté la demande en mariage qui lui a été faite pour le plus grand plaisir de sa mère, rassurée de son alliance avec un bon parti. Nous sommes au début de la première partie du roman. Quelque temps après la célébration du mariage, le prince de Clèves et sa femme sont invités à un bal de la cour. Un homme fait son entrée. C'est le duc de Nemours que le roi présente à la princesse de Clèves.
Savez-vous qui vous êtes et vous en doutez-vous?
Pour moi, sire, je n'ai pas d'incertitude. Comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître.
Clèves, c'est à vous de présenter les danseurs.
Je crois, madame, que vous êtes la seule ici à ne pas connaître le duc de Nemours.
Ils dansent ensemble, sans même se parler, et c'est le coup de foudre. L'adolescente plutôt introvertie qui ne connaît rien à l'amour est bouleversée par cette rencontre et ne cesse d'y penser. Sa mère, madame de Chartres, l'a bien remarqué. La voici alitée chez elle, mourante. Et avant d'expirer, elle met en garde sa fille contre cet amour coupable. « Il faut nous quitter, ma fille, » lui dit-elle en lui tendant la main. « Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmente le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination, mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. » Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez à ce que vous devez à votre mari. Songez à ce que vous vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes conquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour, obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord. Ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvaient obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur doit vous arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. Madame de Clèves fondait en larmes sur la main de sa mère qu'elle tenait serrée entre les siennes, et madame de Chartres, se sentant touchée elle-même, « Adieu, ma fille, » lui dit-elle. « Finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre, et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. » Elle se tourna de l'autre côté en achevant ses paroles et commanda à sa fille d'appeler ses femmes, sans vouloir l'écouter ni parler davantage. Madame de Clèves sortit de la chambre de sa mère en l'état que l'on peut s'imaginer, et madame de Chartres ne songea plus qu'à se préparer à la mort. Elle vécut encore 2 jours pendant lesquels elle ne voulut plus revoir sa fille, qui était la seule chose à quoi elle se sentait attachée. Madame de Clèves était dans une affliction extrême. Son mari ne la quittait point, et sitôt que madame de Chartres fut expirée, il l'emmena à la campagne pour l'éloigner d'un lieu qui ne faisait qu'aigrir sa douleur. On n'en a jamais vu de pareil. Quoique la tendresse et la reconnaissance y eussent la plus grande part, le besoin qu'elle sentait qu'elle avait de sa mère pour se défendre contre M. de Nemours ne laissait pas d'y en avoir beaucoup. Elle se trouvait malheureuse d'être abandonnée à elle-même dans un temps où elle était si peu maîtresse de ses sentiments et où elle eût tant souhaité d'avoir quelqu'un qui pût la plaindre et lui donner de la force. La manière dont M. de Clèves en usait pour elle lui faisait souhaiter plus fortement que jamais de ne manquer à rien de ce qu'elle lui devait. Elle lui témoignait aussi plus d'amitié et plus de tendresse qu'elle n'avait encore fait. Elle ne voulait point qu'il la quittât, et il lui semblait qu'à force de s'attacher à lui, il la défendrait contre M. de Nemours. Après son séjour à la campagne, la princesse de Clèves se retrouve seule à Paris. Ces quelques jours loin de la cour ne l'ont pas guérie de la mort de sa mère ni de ses sentiments naissants pour le duc de Nemours. Son amie, Madame la Dauphine, lui apprend même que ce dernier a refusé une alliance qui l'aurait fait accéder à la couronne d'Angleterre pour la simple raison qu'il aimerait une autre femme. La princesse de Clèves, bouleversée par cette nouvelle, rentre chez elle, mais ne s'attend pas à recevoir la visite de Nemours lui-même. Voici un extrait de la seconde partie du roman, le premier tête-à-tête des deux personnages. Cette princesse était sur son lit, il faisait chaud, et la vue de Monsieur de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté. Il s'assit vis-à-vis d'elle avec cette crainte et cette timidité que donnent les véritables passions. Il demeura quelque temps sans pouvoir parler. Madame de Clèves n'était pas moins interdite, de sorte qu'ils gardèrent assez longtemps le silence. Enfin, Monsieur de Nemours prit la parole et lui fit des compliments sur son affliction. Madame de Clèves, étant bien aise de continuer la conversation sur ce sujet, parla assez longtemps de la perte qu'elle avait faite. Et enfin, elle dit que quand le temps aurait diminué la violence de sa douleur, il lui en demeurerait toujours une si forte impression que son humeur en serait changée. « Les grandes afflictions et les passions violentes, repartit Monsieur de Nemours, font de grands changements dans l'esprit. Et pour moi, je ne me reconnais pas depuis que je suis revenu de Flandre. Beaucoup de gens ont remarqué ce changement et même Madame la Dauphine m'en parlait encore hier. » « Il est vrai, dit Madame de Clèves, qu'elle l'a remarqué, et je crois lui en avoir ouï dire quelque chose. « Je ne suis pas fâché, madame, répliqua Monsieur de Nemours, qu'elle s'en soit aperçue. Mais je voudrais qu'elle ne fût pas seule à s'en apercevoir. Il y a des personnes à qui on ose donner d'autres marques de la passion qu'on a pour elles que par les choses qui ne les regardent point, et n'osant leur faire paraître qu'on les aime, on voudrait du moins qu'elles vissent que l'on ne veut être aimé de personne. » L'on voudrait qu'elle susse qu'il n'y a point de beauté dans quelque rang qu'elle pût être, que l'on ne regardât avec indifférence, et qu'il n'y a point de couronne que l'on voulût acheter au prix de ne les avoir jamais. Les femmes jugent d'ordinaire de la passion qu'on a pour elles, continua-t-il, par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher. Mais ce n'est pas une chose difficile pour peu qu'elles soient aimables. Ce qui est difficile, c'est de ne s'abandonner pas au plaisir de les suivre. C'est de les éviter par la peur de laisser paraître au public et quasi à elle-même les sentiments que l'on a pour elle. Et ce qui marque encore mieux un véritable attachement, c'est de devenir entièrement opposé à ce que l'on était et de n'avoir plus d'ambition ni de plaisir après avoir été toute sa vie occupé de l'un et de l'autre. Madame de Clèves entendait aisément la part qu'elle avait à ses paroles. Il lui semblait qu'elle devait y répondre et ne pas les souffrir. Il lui semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre ni témoigner qu'elle les prit pour elle. Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire. Le discours de M. de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également. Elle y trouvait quelque chose de galant et de respectueux, mais aussi quelque chose de hardi et de trop intelligible. L'inclination qu'elle avait pour ce prince lui donnait un trouble dont elle n'était pas maîtresse. Elle demeurait donc sans répondre. Et M. de Nemours se fut aperçu de son silence, dont il n'aurait peut-être pas tiré de mauvais présages si l'arrivée de M. de Clèves n'eût fini la conversation et sa visite. Ce précieux moment d'intimité n'a fait que confirmer ce que la princesse tentait d'étouffer l'amour que lui porte le duc de Nemours est bien réel et elle doit à tout prix dissimuler son intérêt pour lui. Mais ce dilemme intérieur va trouver un écho tout à fait inattendu dans un récit que va lui faire son mari et qui concerne leur défunte amie Madame de Tournon. Monsieur de Clèves lui apprend que l'on vient de découvrir qu'elle entretenait deux relations amoureuses, et cela dans le plus grand secret. En écoutant ces révélations qui la ramènent à sa propre situation, la princesse ne sait comment cacher son désarroi. Elle décide donc d'éviter la présence de Nemours, mais rien ne se déroule comme prévu. Un jour, chez Madame la Dauphine, alors que la princesse se fait peindre son portrait à la demande de Monsieur de Clèves, Nemours apparaît. Il y avait longtemps que Monsieur de Nemours souhaitait d'avoir le portrait de Madame de Clèves. Lorsqu'il vit celui qui était à Monsieur de Clèves, il ne put résister à l'envie de le dérober à un mari qu'il croyait tendrement aimé. Et il pensa que parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu, il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre. Madame la Dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Madame de Clèves, qui était debout devant elle. Madame de Clèves aperçut par un des rideaux qui n'était qu'à demi fermé Monsieur de Nemours, le dos contre la table, qui était au pied du lit, et elle vit que sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur cette table. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait. Et elle fut troublée que Madame la Dauphine remarque qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait. Monsieur de Nemours se tourna à ses paroles. Il rencontra les yeux de Madame de Clèves qui étaient encore attachés sur lui et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire. Madame de Clèves n'était pas peu embarrassée. La raison voulait qu'elle demandât son portrait. Mais en le demandant publiquement, c'était apprendre à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle, et en lui demandant en particulier, c'était quasi l'engager à lui parler de sa passion. Enfin, elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser, et elle fut bien aise de lui accorder une faveur qu'elle lui pouvait faire sans qu'il sût même qu'elle la lui faisait. Monsieur de Nemours, qui remarquait son embarras, et qui en devinait quasi la cause, s'approcha d'elle et lui dit tout bas, « Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, « ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Je n'ose vous en demander davantage. » Et il se retira après ces paroles et n'attendit point sa réponse. Madame la Dauphine sortit pour s'aller promener, suivie de toutes les dames, et monsieur de Nemours alla se renfermer chez lui, ne pouvant soutenir en public la joie d'avoir un portrait de madame de Clèves. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable. Il aimait la plus aimable personne de la cour, il s'en faisait aimer malgré elle, et il voyait dans toutes ses actions cette sorte de trouble et d'embarras que cause l'amour dans l'innocence de la première jeunesse. Le soir, on chercha ce portrait avec beaucoup de soin, comme on trouvait la boîte où il devait être. L'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé, et l'on crut qu'il était tombé par hasard. Monsieur de Clèves était affligé de cette perte, et après qu'on eût encore cherché inutilement, il dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait voir qu'il ne le pensait pas, qu'elle avait sans doute quelque amant caché à qui elle avait donné ce portrait ou qu'il l'avait dérobé. Ces paroles, quoique dites en riant, firent une vive impression dans l'esprit de Madame de Clèves. Elles lui donnèrent des remords. Elle fit réflexion à la violence de l'inclination qui l'entraînait vers Monsieur de Nemours. Elle trouva qu'elle n'était plus maîtresse de ses paroles et de son visage. Elle se souvenait de tout ce que Madame de Chartres lui avait dit en mourant et de ses conseils qu'elle lui avait donnés de prendre toutes sortes de partis, quelque difficiles qu'ils pussent être, plutôt que de s'embarquer dans une galanterie. Il lui sembla qu'elle devait avouer à son mari l'inclination qu'elle avait pour Monsieur de Nemours. Cette pensée l'occupa longtemps. Ensuite, elle fut étonnée de l'avoir eue. Elle y trouva de la folie et retomba dans l'embarras de ne savoir quel parti prendre.
mich nur die Gnad erwerben, dass du mich zu meinem Sterben, es ist mit
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Nous voici à présent dans la troisième partie du roman. Le duc de Nemours a maintenant la certitude d'être aimé de la princesse de Clèves. La jeune fille va même faire pour la première fois l'expérience de la jalousie lorsqu'elle va découvrir une lettre écrite par une mystérieuse femme et adressée à Nemours. Elle apprendra au terme d'un long récit que le vrai destinataire de ce courrier était en fait son oncle, le vidame de Chartres. Mais après avoir été rassurée, elle prend peur et décide de partir, s'installer à la campagne, afin de fuir cette passion devenue trop forte. Elle avait ignoré jusqu'alors les inquiétudes mortelles de la défiance et de la jalousie. Elle n'avait pensé qu'à se défendre d'aimer M. de Nemours et elle n'avait point encore commencé à craindre qu'il en aimât une autre. Quoique les soupçons que lui avait donnés cette lettre fussent effacés, ils ne laissèrent pas de lui ouvrir les yeux sur le hasard d'être trompée et de lui donner des impressions qu'elle n'avait jamais eues. Elle fut étonnée de n'avoir point encore pensé combien il était peu vraisemblable qu'un homme comme M. de Nemours, qui avait toujours fait paraître tant de légèreté parmi les femmes, fût capable d'un attachement sincère et durable. Elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion. « Mais quand je le pourrais être, disait-elle, qu'en veux-je faire? Veux-je la souffrir? Veux-je y répondre? Veux-je m'engager dans une galanterie? Veux-je manquer à Monsieur de Clèves? Veux-je manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincu et surmonté par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Toutes les résolutions sont inutiles. Je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je résolus hier. Il faut m'arracher de la présence de Monsieur de Nemours. Il faut m'en aller à la campagne, quelque bizarre que puisse paraître mon voyage. Et si Monsieur de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou à en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferai-je le mal, et à moi-même aussi, de les lui apprendre. Elle demeura dans cette résolution, et quand Monsieur de Clèves fut revenu, elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne, qu'elle se trouvait mal, et qu'elle avait besoin de prendre l'air. Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige parce qu'il nous sépare, dit M. de Clèves. Je vous trouve même plus triste que de coutume et je crains que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, répondit-elle, mais le tumulte de la cour est si grand et il y a toujours un si grand monde chez vous qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Le repos, répliqua-t-il, n'est guère propre pour une personne de votre âge. Vous êtes chez vous et dans la cour d'une sorte à ne pas vous donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparée de moi. Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, reprit-elle avec un embarras qui augmentait toujours. Ah, madame, s'écria M. de Clèves, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seule, que je ne sais point, et je vous conjure de me les dire. Après qu'elle se fût défendue d'une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari, elle demeura dans un profond silence, les yeux baissés. Puis tout à coup, prenant la parole et le regardant, « Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer. Quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein, songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge et maîtresse de sa conduite demeure exposée au milieu de la cour. « Que me faites-vous envisager, madame ? » s'écria M. de Clèves. « Je n'oserais vous le dire de peur de vous offenser. » Madame de Clèves ne répondit point et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé. « Vous ne me dites rien, reprit-il, et c'est me dire que je ne me trompe pas. « Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, Je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. L'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous ne laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. » Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant en la relevant, « Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne. » Et pardonnez si dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Elle dure encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. Alors, madame, achevez et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. « Je vous supplie de me le point demander, » répondit-elle. « Il me semble que vous devez être content de ma sincérité. Ne m'en demandez pas davantage et ne me donnez point lieu de me repentir de ce que je viens de faire. Contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments et qu'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. » Dans ce moment, plusieurs de leurs gens vinrent avertir M. de Clèves qu'un gentilhomme venait le chercher. Il fut contraint de s'en aller, et il ne put rien dire à sa femme, sinon qu'il la conjurait de croire que, quoiqu'il fût affligé, il avait pour elle une tendresse et une estime dont elle devait être satisfaite.
Marie d'Arieusec.
Cette femme avait parfaitement le droit de se taire, mais il la pousse dans ses retranchements. Il ne supporte plus ce qu'il devine. Et donc elle le lui dit en sachant qu'elle ne devrait pas. Elle se sent obligée de parler et obligée de ne rien dire. C'est infernal. Et donc cet aveu le tue.
Peu de temps après cet aveu, le prince de Clèves va découvrir que l'homme dont sa femme est amoureuse n'est autre que Nemours. Soucieux de préserver son mariage, il demande à l'un de ses proches d'aller surveiller les environs de la maison de Coulommiers où réside la princesse. Sur place, l'espion assiste à l'arrivée impromptue de Nemours dans le jardin de la propriété. Il est venu surprendre celle qu'il aime. Voici un extrait de la quatrième partie du roman. Il trouva qu'il y avait eu de la folie, non pas à venir voir Madame de Clèves sans en être vu, mais à penser de s'en faire voir. Il vit tout ce qu'il n'avait point encore envisagé. Il lui parut de l'extravagance dans sa hardiesse de venir surprendre au milieu de la nuit une personne à qui il n'avait jamais encore parlé de son amour. Il pensa qu'il ne devait pas prétendre qu'elle le voulût écouter et qu'elle aurait une juste colère du péril où il s'exposait par les accidents qui pouvaient arriver. Tout son courage l'abandonna, et il fut prêt plusieurs fois à prendre la résolution de s'en retourner sans se faire voir. Poussé néanmoins par le désir de lui parler, et rassuré par les espérances que lui donnait tout ce qu'il avait vu, il avança quelques pas. mais avec tant de trouble qu'une écharpe qu'il avait s'embarrassa dans la fenêtre, en sorte qu'il fit du bruit. Madame de Clèves tourna la tête, et soit qu'elle eût l'esprit rempli de ce prince, ou qu'il fût dans un lieu où la lumière donnait assez pour qu'elle le pût distinguer, elle crut le reconnaître, et sans balancer ni se retourner du côté où il était, elle entra dans le lieu où étaient ses femmes. Quand elle eut fait quelques réflexions, elle pensa qu'elle s'était trompée et que c'était un effet de son imagination d'avoir cru voir M. de Nemours. Elle savait qu'il était à Chambord. Néanmoins, elle eut envie plusieurs fois d'aller voir dans le jardin s'il y avait quelqu'un. M. de Nemours était demeuré dans le jardin tant qu'il avait vu de la lumière. Il n'avait pu perdre l'espérance de revoir Mme de Clèves, quoiqu'il fût persuadé qu'elle l'avait reconnue et qu'elle n'était sortie que pour l'éviter. Mais voyant que l'on fermait les portes, il jugea bien qu'il n'avait plus rien à espérer. Il vint reprendre son cheval tout proche du lieu où attendait le gentilhomme de M. de Clèves. Ce gentilhomme le suivit jusqu'au même village d'où il était parti le soir. M. de Nemours se résolut d'y passer tout le jour afin de retourner la nuit à Coulommiers pour voir si Mme de Clèves aurait encore la cruauté de le fuir ou celle de ne se pas exposer à être vue. La passion n'a jamais été si tendre et si violente qu'elle l'était alors en ce prince. Il s'en alla sous les saules le long d'un petit ruisseau qui coulait derrière la maison où il était caché. Il s'éloigna le plus qu'il lui fut possible pour n'être vu ni entendu de personne. Il s'abandonna au transport de son amour et son cœur en fut tellement pressé qu'il fut contraint de laisser couler quelques larmes. Mais ces larmes n'étaient pas de celles que la douleur seule fait répandre. Elles étaient mêlées de douceur et de ce charme qui ne se trouve que dans l'amour. Il se mit à repasser toutes les actions de Madame de Clèves depuis qu'il en était amoureux. Quelle rigueur honnête et modeste elle avait toujours eue pour lui, quoiqu'elle l'aimât. « Car enfin elle-même, disait-il, elle-même, je n'en saurais douter. Cependant, je suis traité avec la même rigueur que si j'étais haï. J'ai espéré autant, je n'en dois plus rien attendre. Je la vois toujours se défendre également contre moi et contre elle-même. Que puis-je donc espérer ? Et quel changement dois-je attendre dans ma destinée ? Laissez-moi voir que vous m'aimez, belle princesse, laissez-moi voir vos sentiments, pourvu que je les connaisse par vous une fois en ma vie, je consens que vous repreniez pour toujours ces rigueurs dont vous m'accabliez. Regardez-moi du moins avec ces mêmes yeux dont je vous ai vu cette nuit regarder mon portrait. Pouvez-vous l'avoir regardé avec tant de douceur et m'avoir fui moi-même si cruellement ? Que craignez-vous ? Pourquoi mon amour vous est-il si redoutable ? Vous m'aimez, vous me le cachez inutilement. Vous-même m'en avez donné des marques involontaires. Je sais mon bonheur, laissez-moi en jouir et cessez de me rendre malheureux. Est-il possible que je sois aimé de Madame de Clèves et que je sois malheureux ? Qu'elle était belle cette nuit ! Ces pensées occupèrent tout le jour M. de Nemours. Il attendit la nuit avec impatience et quand elle fut venue, il reprit le chemin de Coulommiers. La nouvelle de l'intrusion de Nemours à Coulommiers revint vite aux oreilles de M. de Clèves. Sans en savoir davantage, sans même être persuadé de l'adultère, il désigne Nemours comme son ennemi et se laisse emporter par la colère et le chagrin.
Il y a 5 jours, on l'a retrouvé sans connaissance. On suppose qu'il était victime d'une syncope.
Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu ?
Il a refusé qu'on vous prévienne. Il avait sans doute peur de vous inquiéter. Mais devant la gravité de son état, j'ai cru indispensable de le faire.
Quelque temps plus tard, sur son lit de mort, il accuse sa femme d'être à l'origine de sa perte.
Vous ne deviez jamais revoir M. de Nemours. Je vous ai cru. Je mourrai. Mais sachez qu'après m'avoir ôté l'estime et l'amour que j'avais pour vous...
Monsieur, je n'ai jamais rien fait dont vous n'eussiez pu être témoin. Il me semble que je rêve... et que je vous entends parler d'une autre. De qui donc parlez-vous ?
Je parle de ma femme.
La princesse, désormais veuve, rongée par la culpabilité, rencontre un jour par hasard le duc de Nemours. La passion qu'elle avait pour cet homme et qu'elle croyait éteinte se ravive en un instant. Lui est décidé à l'épouser. Voici la réponse qu'elle lui donne. « Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, » reprit-elle. « Et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur, et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité ? Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurai pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Vous en avez assez prouvé pour vous animer à vaincre, et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter. « Ah, madame, reprit Monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions. Vous en auriez encore. Je ne ferai plus votre bonheur. J'en aurai une douleur mortelle et je ne serai pas même assuré de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître et que je souffris de si cruelles peines le soir que la reine me donna cette lettre de Madame de Thémines que l'on disait qui s'adressait à vous. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitaient de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Je vous croirai toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperai pas souvent. Dans cet état néanmoins, je n'aurai d'autre parti à prendre que celui de la souffrance. Il faut donc que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. » Et croyez-vous le pouvoir, madame, s'écria Monsieur de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire? Il est plus difficile que vous ne le pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple, mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments et j'espère que vous les suivrez malgré vous. Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua Madame de Clèves. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. » Monsieur de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. Il lui fit voir, et par ses paroles et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché. Celui de Madame de Clèves n'était pas insensible, et regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par les larmes, « Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de Monsieur de Clèves? Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre? Ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que d'être engagée? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible? Il n'y a pas d'obstacle, madame, reprit monsieur de Nemours. Vous seule vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer. Il est vrai, répliqua-t-elle, que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez à ce que le temps pourra faire. Monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vu. Croyez que les sentiments que j'ai pour vous seront éternels et qu'ils subsisteront quoi que je fasse. Adieu. » Et elle sortit en disant ces paroles sans que M. de Nemours pût la retenir.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Madame, si vous n'étiez pas la reine, je vous supplierais de me laisser seule et de ne plus me parler du duc de Nemours.
C'est vous qu'il nommez.
Il n'y a de criminel que moi, madame.
Elle ne croit pas à la durée dans l'amour. Elle pense au dégoût et à l'inconstance qui suit nécessairement l'amour, notamment et surtout l'amour des hommes. Elle ne veut pas se confronter à cette expérience et elle préfère rompre à l'avance plutôt que de connaître cette douleur absolue. C'est une attitude violente.
Alain Finkielkraut.
Mais en même temps, elle nous dit quelque chose de l'amour. Et aujourd'hui, on a tendance à dire, au fond, qu'elle fait des histoires pour rien ou qu'elle est sadomasochiste. C'est l'explication de Philippe Solers. Mais tout ça, pourquoi pense-t-on cela avec une telle évidence aujourd'hui? Parce que nous avons intégré son diagnostic. Nous pensons en effet que l'amour s'use. Et nous disons « et alors ?» Et ce qui est très beau dans La Princesse de Clèves, c'est qu'elle ne nous dit pas « et alors ?» La déclaration d'amour, c'est dire « j'aimerais » au moment même où on dit « j'aime ». Et si précisément ce serment intègre en quelque sorte sa propre trahison, cela veut dire que quelque chose de l'amour est peut-être en train de disparaître. Voilà, je crois, le sens qu'a pour nous la princesse de Clèves.
Je vous admire. Je ne connais aucune femme qui saurait porter sa vertu aussi haut que la vôtre et ne pas céder à ses désirs.
Pourquoi une femme amoureuse et certaine d'être aimée, une femme enfin libre de toutes les obligations, refuse-t-elle de s'abandonner à la passion qui la consume et qui pourrait la rendre heureuse? C'est la grande question posée ici par Madame de Lafayette, qui peint son héroïne non pas en femme sacrificielle, qui renonce à ses sentiments pour honorer sa vertu, mais justement en amoureuse idéaliste, qui choisit de préserver l'idée d'un certain amour plutôt que d'affronter la peur d'une défaite. Voici la dernière page du livre. Madame de Clèves s'est isolée à la campagne. Elle a interdit à ses domestiques de laisser entrer Nemours chez elle. Celui-ci tente malgré tout de la revoir, sans succès. Monsieur de Nemours pensa expirer de douleur en présence de la personne qui lui parlait. Il la pria 20 fois de retourner à Madame de Clèves afin de faire en sorte qu'il la vît. Mais cette personne lui dit que Madame de Clèves lui avait non seulement défendu de lui aller redire aucune chose de sa part, mais même de lui rendre compte de leur conversation. Il fallut enfin que ce prince repartît, aussi accablé de douleur que le pouvait être un homme qui perdait toutes sortes d'espérances de revoir jamais une personne qu'il aimait d'une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qui ait jamais été. Néanmoins, il ne se rebuta point encore, et il fit tout ce qu'il put imaginer de capable de la faire changer de dessein. Enfin, des années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qu'il ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Pierrick Charles à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Merci beaucoup, bonne soirée et à la semaine prochaine.